Bienvenue au Sermon d'Hippocrate, le podcast où l'on parle des choses qui affectent notre santé, mais ne se trouvent pas en pharmacie. Que ce soit l'alimentation, le sommeil, la méditation ou l'activité physique, tout ce qui a un impact profond sur notre santé est bon à découvrir, étudier et discuter. Bonjour et bienvenue. La semaine dernière, quand j'ai reçu Olivier Maria, on a parlé rapidement de chaussures minimalistes. Mais parce qu'on voulait parler de son alimentation cétogène, j'ai laissé passer le sujet. Mais puisque c'est quelque chose d'intéressant à regarder, j'ai demandé à Peter Blanken de venir en parler avec moi. Peter est le fondateur de Chronofocus et de Continue.com, une enseigne qui se spécialise dans les chaussures et sandales minimalistes. Alors on va pas faire un spot de pub pour le magasin ou le site, mais parce que j'ai beaucoup discuté avec Peter et son équipe au fil des années, je ne peux que vous recommander d'aller les voir si ce sujet vous intéresse, ils sont vraiment top. Allez, c'est parti. Bienvenue Peter, au Sermon d'Hippocrate.
Bonjour Ben.
Alors, est-ce qu'on peut démarrer aujourd'hui avec une petite présentation? Nous, on se connaît parce qu'on a déjà collaboré ensemble, mais est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs?
Bien sûr. Donc, je m'appelle Peter Blanken. Je suis né à Bangkok, en Thaïlande, parce que mes parents habitaient à l'époque lointaine là-bas. Et puis, j'ai vécu, où nous avons déménagé il y a pas mal de fois, donc j'ai vécu au Japon, aux Philippines, au Japon, aux Pays-Bas, en Belgique. J'ai fait ensuite une partie de ma scolarité en Angleterre. Et comme je suis de nationalité néerlandaise, j'ai ensuite fait mes études universitaires à Rotterdam, aux Pays-Bas. Et puis, quand j'ai terminé, j'ai eu mon diplôme, je ne me sentais pas prêt à acheter un costume et trouver un vrai boulot. Et donc, j'avais mon meilleur ami qui habitait à Paris à ce moment-là, qui faisait des études à Paris. Et j'ai demandé si je pouvais venir squatter chez lui le temps de voir ce que je pouvais trouver d'intéressant à faire. Il a dit pas de problème. Alors, il avait un tout petit studio de peut-être 3 mètres sur 4 mètres. Mais aucun problème. Donc, j'ai squatté chez lui, j'ai cherché un petit peu et j'ai trouvé un troisième cycle en commerce international à faire à Clermont-Ferrand. Et ça me bottait bien. Donc, je suis parti à Clermont-Ferrand. J'ai fait une année d'études là-bas. J'ai fait un stage dans une filiale du Centre national d'études spatiales avec une partie de travail qui était à faire à Washington, à la Banque mondiale. Ensuite, je suis revenu et puis je suis passé par différentes sociétés où j'ai eu des responsabilités. C'était surtout dans les produits électroniques grand public et puis ensuite dans l'informatique où j'ai travaillé pour deux sociétés américaines, hein, qui s'appelait Palm Computing qui faisait l'organisateur de poche, qui est quelque part l'ancêtre de notre smartphone d'aujourd'hui, sauf qu'il n'y avait pas la téléphonie intégrée. Et puis ensuite, une autre société dans le montage vidéo, qui s'appelait Pinnacle System. Et quand j'ai quitté Pinnacle System, j'avais la possibilité de travailler pour une autre boîte américaine. Et j'en avais un peu marre. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais pour me lancer. Et donc, ça, c'était en 2007. Et j'ai réfléchi un petit peu. Et comme on dit, en me rasant le matin, j'ai trouvé l'idée qui était que il y a des gens qui font du sport, c'est bien. Il faudrait quand même y en ait plus. Mais il y en a beaucoup qui ne se fixent pas d'objectifs et qui ne mesurent pas leurs résultats. Donc, je me suis dit, je vais créer un site de contenu par rapport à ça, la mesure et l'amélioration de la performance sportive. Et puis, en même temps, je vais vendre les produits. Et dans les produits, je pensais aux chronos, aux montres, parce qu'avec ça, on peut mesurer des GPS, ce genre d'appareil. Et donc, j'ai pu avoir des accords avec Suunto, avec Polar, avec Garmin. Et j'ai commencé à acheter et revendre ces appareils-là sur un site internet de vente en ligne. Donc, la société que j'ai créée s'appelait Chronofocus. Chronos, le temps, qui est probablement l'élément le plus important pour un athlète pour mesurer ses performances. Et donc, c'est là-dessus qu'il se focalise, Chronofocus. J'ai regardé, l'URL était disponible. Il y avait, donc, j'ai pris le fr, le .com, tout le tralala, et j'ai commencé comme ça. Et donc, dans la partie amélioration, j'ai trouvé des produits qui étaient destinés à la kinésithérapie et l'entraînement, le renforcement. Et puis, il y a un grand salon en Europe pour tout ce qui est sport qui avait lieu à Essen maintenant, c'est à Cologne, qui s'appelle FIBO. Donc, je suis allé en Allemagne au FIBO pour regarder un petit peu ce qu'il y avait comme fournisseur et comme produit qu'on pouvait trouver d'intéressant. Et puis, en tournant, c'était en 2008, j'ai fait 3 jours sur ce salon, c'est un truc immense. Et j'avais à peu près fait le tour et je me suis dit, bon, je vais rentrer, c'est bon. Je tombe sur un stand où il y a les Vibram Five Fingers. Donc, ces fameuses chaussures avec les orteils séparés. Et j'ai discuté avec le mec qui était là et je trouvais ça vachement intéressant parce que le discours derrière ces chaussures, c'est qu'on va avoir les mêmes sensations et la même liberté de mouvement que d'être pieds nus. Donc, dans la mesure de la performance sportive, ça ne rentre pas là-dedans, mais dans l'amélioration, le fait d'être pieds nus, ou presque, nous permet de mieux sentir notre environnement, d'améliorer notre stabilité, notre équilibre. Et donc, c'est un élément qui pourrait être intéressant dans l'amélioration de la performance sportive. Donc, je suis parti en parlant avec ce bonhomme qui était un Italien, puisque Vibram est une société italienne, mais il passait à cette époque-là à travers une espèce de super distributeur pour l'Europe. Et donc, j'ai continué un peu comme ça à réfléchir à cette question. Ensuite, cette personne m'a envoyé un petit document en me demandant combien d'employés j'avais, combien de milliers de mètres carrés d'entrepôt, combien de clients, etc. Et je venais tout juste de démarrer, donc je me suis dit, là, ça va être chaud là, qu'est-ce que je vais lui dire? Et donc, je me suis dit, comme avec un CV, il vaut mieux pas mentir. Donc, j'ai dit en gros la vérité, que ben, c'était moi tout seul avec deux pièces cuisine en gros. Mais j'avais beaucoup de volonté, beaucoup d'intérêt. Et donc il a dit, bah, écoute, c'est super intéressant, je viens te voir. Donc, je dis, ouf, heureusement, j'ai pas menti sur ce coup-là et il est venu me voir et puis on s'est rencontrés, on s'est bien entendu. Et il a dit, bah, vas-y, commence avec la distribution de ce produit-là pour la France.
Oui, donc il t'a été pris comme distributeur quasiment direct comme ça.
Oui. Donc, alors la particularité de ce produit-là, bien sûr, c'est le look d'un côté, parce que les chaussures avec les orteils séparés, ben, en gros, il n'y en a pas.
C'est vrai que
Et
ça saute aux yeux.
ça saute aux yeux. Et le gros avantage de ça, au fait, parce que tu peux dire, il y a un inconvénient, mais le gros avantage, si on voit le positif, c'est que soit ça plaît, et quand ça plaît très fortement. Soit ça déplaît, et quand ça déplaît très fortement aussi. Donc, ceux à qui ça déplaît, tu n'as pas besoin de passer du temps à leur parler, et ceux à qui ça plaît et qui comprennent, qui voient l'intérêt, ben, ils deviennent des ambassadeurs et des fans. Donc, j'ai commencé comme ça, avec ce produit-là, à essayer de distribuer ça. Alors, la France, comme dans d'autres domaines, et dans le domaine du sport, il y a bien évidemment un gros éléphant sur le marché, c'est Decathlon. Decathlon, qui, je ne sais pas quelles sont les parts de marché aujourd'hui, mais je crois qu'à l'époque, c'était quelque chose comme 65-70% du marché de l'équipement sportif en France, c'est Decathlon. C'est le plus grand chausseur, c'est le plus grand vendeur de vêtements. Donc, c'est un mastodonte. Et à part ça, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a comme réseau de distribution plutôt spécialisé qui arrive à tirer leur épingle du jeu sur le marché? Si tu prends le golf, par exemple, les gens, ils vont peut-être acheter leurs balles ou des bricoles chez Decathlon. Par contre, les clubs, ils aiment bien aller chez un professionnel, donc soit le pro du club, soit des magasins spécialisés. Pour la course à pied, c'est un peu la même chose. C'est que les chaussettes, peut-être le t-shirt, on va l'acheter chez Decathlon. Par contre, les chaussures, on veut avoir un vrai conseil et on va voir un magasin de running.
Bah, surtout que
Donc,
la
j'ai
course à
commencé à
pied a ce
démarcher.
truc-là. C'est un peu le truc de la
Oui.
course à pied. C'est censé
Ben,
avoir
ça l'est
uniquement une paire de
devenu.
baskets, initialement.
Ouais. Alors, c'est justement là où il y a eu un concours de circonstances qui était assez exceptionnel. C'est qu'il y a le livre Born to Run de Chris McDougall qui est sorti en 2010. Et donc, bon, j'ai mis un peu de temps hein, pour commencer à mettre ça sur pied.
Bien sûr.
Mais ce livre est sorti. Et dans ce livre-là, on parle de Barefoot Ted, qui est un des protagonistes qui, lui, court barefoot pieds nus. Mais dans certains cas, quand le terrain est vraiment très, très dur, difficile, dur dans le sens coupant, par exemple, il met des five fingers. Donc, on parle dans ce livre de ces chaussures-là. Et donc, le produit très vite a été associé à la course à pied parce que tout l'intérêt de ce genre de chaussures dans la course à pied, c'est que pour pouvoir courir avec, il faut avoir une foulée avant-pied puisqu'il n'y a pas d'amorti dans la chaussure. L'amorti, et ça, je pense, on reviendra dessus parce que c'est quelque part un élément central, mais l'amorti est dans notre corps. Et donc, dans cette transition vers une foulée qu'on a ensuite appelée minimaliste ou barefoot ou avant-pied, est quand même plus appropriée avec ce genre de chaussures que des chaussures surélevées, épaisses, qui ne permettent pas de sentir le sol à travers. Donc, à ce moment-là, il y a la traduction du livre qui est devenue disponible en France aussi. Ce livre qui devait s'appeler Né pour courir, et justement j'avais eu une conversation avec l'éditeur à ce moment-là parce que je proposais que nous soyons quelque part partenaires parce qu'on avait un grand intérêt à ce que ce livre-là fasse le même succès que connu aux États-Unis. Et donc justement, on a travaillé ensemble, et je lui ai dit il faudrait l'appeler Born to Run, ce livre, parce que c'est le nom sous lequel ça va être connu mondialement. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, Born to Run est ensuite sorti en version française, et on a continué comme ça à avancer. Une fois qu'on avait des chaussures à orteils, si tu veux mettre des chaussettes dans des chaussures à orteils, ben, il faut des chaussettes à orteils. Donc, j'ai contacté Injinji, qui est une marque américaine, qui est quasiment le leader en termes de marque sur ce genre de produit, et on a eu la distribution pour la France. Et puis ensuite, il y a d'autres marques qui se sont ajoutées à l'aventure.
À ce stade, tu avais déjà un magasin physique ou est-ce que c'était encore juste le site web?
Alors là, c'était juste le site web. La première chose que j'ai fait par la suite, c'est de créer un autre site web. Donc, il y avait un site web qui s'appelait Chronofocus, où il y avait différents produits. Mais j'avais la possibilité, au fait, je changeais aussi en termes de taille de société, un petit peu de braquet, et il me fallait un système de gestion. Et j'ai trouvé donc un prestataire qui avait un très bon système de gestion avec la possibilité de mettre un front-end web dessus. Et j'avais à ce moment-là aussi décidé d'externaliser la logistique parce que je faisais moi-même dans mon garage, en gros, je faisais les colis et ça commençait à être problématique. Donc, j'ai fait un grand changement vers un nouveau système avec un nouveau site web et donc la logistique externalisée. Et il fallait que je trouve un nom pour ce site. Et j'ai pensé Five Fingers quand même parce que c'était le produit principal. Et je me suis dit, il faut faire attention quand même parce que si un jour il se passe quelque chose, soit avec la marque ou qu'ils m'interdisent d'utiliser ça parce que c'est une marque déposée, comment je vais faire? Et puis en réfléchissant, je me suis dit, ben, au fait, l'idée c'est de porter des chaussures et se sentir comme pieds nus. Comme pieds nus. Et donc je me suis dit compiedsnus.com, c'est drôle. Et donc je me suis dit, ben, j'ai regardé, compiedsnus était disponible.com. Comme URL, donc j'ai déposé là aussi la marque à l'INPI, j'ai créé j'ai pris le .com, le .fr, le point, tout ce que tu veux, et donc ce nouveau site s'appelait Comme Pieds Nus, et c'est à partir de là qu'on a commencé à développer vraiment le site web. Et donc là on était en 2011-12, le président de la société logistique avait la possibilité de me mettre à disposition un local. Donc il m'a demandé si ça m'intéressait, j'ai dit oui, pourquoi pas, et donc on a eu un local. Comme j'avais aussi maintenant des collaborateurs qui au début travaillaient de chez moi, encore une fois on a trouvé un bureau à Paris, et puis ensuite on s'est mis dans ce magasin aussi pour avoir justement un lieu où les gens peuvent venir les essayer, parce que c'est quand même un truc un peu, à prime abord, un peu bizarre. Tu sais pas, il paraît que c'est confortable, mais qu'est-ce que j'en sais? Donc les gens veulent essayer, d'une part. D'autre part, et ça on a toujours vu aussi sur les salons, c'est quand tu expliques quelque chose, intellectuellement tu le comprends, mais notamment par rapport aux sensations du corps, et les pieds sont le troisième endroit de concentration de points nerveux dans le corps, après le visage et les mains. Et quand tu mets ces chaussures-là aux pieds, là tu comprends intérieurement vraiment ce que ça veut dire, d'avoir cette liberté de mouvement, d'avoir les orteils qui peuvent bouger. Et donc, c'est quelque part, c'est là où tu comprends viscéralement ce que ça veut dire, quel intérêt. Et quand tu vas marcher avec, c'est là où tu comprends.
Du coup, toi, tu as eu cette découverte. Donc, ouais. Comment ça s'est passé pour toi? Parce que j'imagine qu'avant, tu portais des chaussures conventionnelles. Et ouais. C'est quoi? Sur le salon, peut-être, que tu as découvert pour la première fois? Mais t'as dû,
sur
t'as
le salon en Allemagne.
Sur le salon en Allemagne. Et après, tu as dû les adopter, peut-être, pour ton propre usage. Ça s'est passé comment?
En fait, d'abord, il faut être honnête, d'abord, j'ai vu une opportunité commerciale. Je me suis dit, bah, tiens, c'est un truc original, normal. Pourquoi pas, normal. Et ensuite, en fait, il fallait quand même trouver une histoire autour de ça. Parce qu'il y a, je me souviens, et ça m'est arrivé plusieurs fois, où quelqu'un me disait, tu sais, ce truc-là, c'est génial. Tu sais ce qu'il faut faire? Dis-moi ce que je devrais faire. Yannick Noah, le mec, il est tout le temps pieds nus. Il faut lui donner une paire, et comme ça, il sera vu par tout le monde. C'est un des personnalités françaises préférées. Tout le monde va le voir, et puis ça va exploser, ça va être génial. Et je dis, oui, mais... Pourquoi est-ce que c'est génial quand ça explose? Parce que les choses qui explosent en général, ça monte très vite et puis ça descend très vite aussi. Voilà. Et c'est pas le but. Il y a beaucoup plus derrière ça que juste un objet de mode ou juste un objet fun. Donc, si tu veux construire dans la durée, il faut raconter une vraie histoire. Et la vraie histoire, c'est que ça fait à peu près 2 millions d'années qu'on est sur la Terre dans notre forme actuelle. Nos pieds sont la base, c'est notre connexion déjà avec la terre, sont la base de notre posture, la base du mouvement, et c'est probablement l'endroit du corps qui est le plus négligé. Et quand on voit ce qu'on met aux pieds, la forme des chaussures qui sont pointues, là où les orteils, notre avant-pied quand on regarde est plus large que l'arrière, nos orteils servent à stabiliser, servent à gripper, ça va propulser. Et ces fonctions-là, qui sont essentielles, on va complètement les négliger dans les chaussures modernes, qui sont pointues, qui sont étroites, qui sont rigides, qui sont très souvent avec le bout élevé. Donc les orteils ne touchent pas par terre, ne remplissent pas leur fonction de stabilisation. Et à force de le faire, et même de le faire à un âge très très jeune, nos pieds se déforment. Et quand on voit comment les orteils, chez beaucoup de personnes, et maintenant on le voit en magasin, beaucoup de personnes ont les orteils qui sont collés, beaucoup de personnes sont incapables de bouger les orteils séparément. Et ce qui est très intéressant, par exemple, quand je vois quelqu'un qui a beaucoup de mobilité dans les orteils, je pose la question, est-ce que vous faites des arts martiaux? Est-ce que vous êtes pieds nus souvent? Et pratiquement toujours, c'est ça. C'est oui, je suis tout le temps pieds nus chez moi. J'adore. Et voilà. En vacances, quand on y pense, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? À être pieds nus, pour porter des tongs ou des sandalettes ou des quelque chose de léger. Et donc, cette idée-là qui est très, très logique, ça s'est construit. Et puis, bien sûr, fallait aussi que je sois mon meilleur ambassadeur pour quelque part faire comprendre cette histoire-là. Mais évidemment, je porte ces chaussures tous les jours. Parce que des chaussures maintenant conventionnelles, disons, qui sont pointues, je ne peux plus en porter. Les chaussures que j'avais d'avant, je ne peux plus les porter. C'est fini.
J'ai eu le même problème pour un mariage récemment.
Voilà.
Finalement, j'ai porté des chaussures qui se trouvent chez toi, d'ailleurs, dans ton magasin.
Ouais.
Donc,
Ouais. Mais ça aussi, au fait, c'est vraiment une question de perception. Et très souvent aussi, des gens viennent, par exemple, notamment des femmes. Et une femme qui veut essayer une paire, vous faites quelle pointure? Je fais du 38. On va chercher une paire de 38. Oh là là, c'est trop petit. Ok, mais on va mettre un 39. Ah, je touche quand même devant. Ok, on va mettre un 40. Ah non, 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 je porte jamais le 40. Oui, mais si 39 est trop petit, il vous faut du 40. Ah non, non, mais, non, non, mais monsieur, je porte jamais de 40. Écoutez, si, c'est quoi le problème à porter des 40? Mais ça va être une chaussure énorme. Mais vous croyez vraiment que tout le monde regarde vos pieds d'abord? C'est ce qu'on cherche à faire surtout. Et c'est ce que je dis aussi en magasin. Ce sont des chaussures et n'importe quelle chaussure en réalité. Il faut les acheter avec les pieds et pas avec la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que il faut se poser la question, comment est-ce que je suis dedans? Est-ce que je suis confortable? Est-ce que mon pied bouge confortablement? Quand on achète avec la tête, on va chercher la couleur, la forme, la marque. Voilà, est-ce que Kardashian en a? Je ne sais pas moi. Donc, c'est tout est question de où tu mets l'importance pour cette partie du corps qui est pourtant si importante, quoi.
Mais pourtant, ça existe. Enfin, les chaussures que tu décris, donc beaucoup plus souples et plus adaptées à la forme du pied,
Ouais.
elles existent aussi dans une dimension esthétique. C'est-à-dire qu'on
Bien
peut.
sûr.
Enfin, c'est moi le premier. Hein, je vais acheter tel modèle à la place de tel autre parce que dans les critères de fonctionnalité, je préfère celui-là. Donc ça reste quelque chose à regarder. Mais c'est un truc que j'ai pas mal entendu. Et qui semble obséder beaucoup les gens, hein. Même si je l'ai plus entendu chez les femmes que les hommes, mais elles ont l'air énormes. On dirait des Birkenstock ou je ne
Les
sais
pieds de
quoi.
canard.
Enfin voilà, on dirait des pieds de canard. Elles sont trop larges. Et c'est vrai que tu te rends compte que, alors certes elles sont larges, mais font juste la largeur d'un pied, en fait.
Exactement, oui. Il y a aussi une autre chose. Donc, une autre marque que nous distribuons s'appelle Vivo Barefoot, qui a été créée par deux cousins de la famille Clarks, donc Galahad et Asher Clark,
Clark, c'est le
qui ont voulu.
fabricant de chaussures britannique.
Oui. Et donc, ils sont sixième génération de cette marque. Ils ont voulu faire leurs chaussures à eux. Et ils ont créé donc Vivo Barefoot. Et Galahad, donc un des deux, il m'avait raconté l'histoire. Il avait rencontré une dame qui est spécialisée dans le design de chaussures pour enfants. Et donc, ils ont parlé chaussures comme ça. Et puis, la dame lui dit, mais vous savez, les chaussures en Italie, non, pour enfants, hein, n'ont pas du tout la même forme qu'en Allemagne. Et donc, Galahad a dit, ah, c'est curieux, pourquoi les enfants italiens n'ont pas les mêmes pieds que les enfants allemands? A dit non, non, pas du tout, c'est juste comme ça, voilà. Il dit, mais désolé, mais c'est pas logique, s'ils ont les mêmes formes de pieds, pourquoi est-ce que les chaussures n'ont pas la même forme? Bon, la femme, ça s'était pas très bien passé, cette conversation, et elle a rappelé finalement 2 semaines après en disant, mais j'ai réfléchi beaucoup à votre réponse et il faudrait qu'on parle un peu plus. Mais voilà, toute la logique, au fait, c'est que il y a une espèce d'idée qu'une chaussure, elle doit être pointue, elle doit être comme ci, comme ça. Et c'est ça le dictat de la mode qui dit que. Mais finalement, quand on a des chaussures, quoi, à la fin de la journée, et ça, c'est chacun peut se poser la question, c'est quand je rentre le soir chez moi, c'est quoi la première chose que je fais en fermant la porte derrière moi? Ben, c'est enlever les chaussures. La deuxième chose qu'on fait après, c'est ah, un grand soupir de soulagement parce que on a porté pendant toute la journée des chaussures qui sont inconfortables, qui font mal, qui, chez beaucoup de femmes, créent un problème de hallux valgus. C'est donc le gros orteil qui va être poussé vers les autres orteils parce que la forme de la chaussure, mais aussi parce que le talon qui est surélevé va mettre de la pression sur le pied vers l'avant. là où les orteils vont justement être bloqués, encore une fois, par la forme de la chaussure, et à force de faire ça, et à force aussi de ne pas permettre aux pieds de bouger, de se renforcer, on déforme les pieds et les orteils. Donc, est-ce que ça c'est mieux que de porter une chaussure qui est finalement confortable, qui est mieux pour nos pieds, mieux pour notre corps, notre posture, pour nos lombaires, pour, etc., etc. Ben, à chacun de faire le choix. Donc, ce qu'on fait avec le magasin maintenant, au final, et je trouve, et ça c'est très important, c'est que je ne nous vois pas comme des vendeurs de chaussures, c'est-à-dire que vous rentrez, il faut que vous partiez avec une paire de chaussures. On est là plutôt pour du conseil, c'est ça qu'on fait. On explique à quoi ça sert, pourquoi c'est bien, et à chacun de se décider. Et si tu trouves ça moche, ben, c'est pas un problème. Si tu trouves ça pas confortable, et notamment, et ça vient notamment des Five Fingers, parce que ça ne convient pas à tout le monde, et c'est bien comme ça. Mais ceux qui aiment, qui vont retrouver là-dedans une sensation qu'ils n'avaient pas avant, et ça peut être quelque chose qu'on peut porter pendant le yoga ou le fitness ou la musculation, comme tu le sais, c'est très intéressant aussi parce que justement, il faut avoir une bonne assise au sol, une bonne posture, il faut bien, bien s'équilibrer. Et bien à ce moment-là, si on ne veut pas avoir les pieds sales ou ce genre de choses, c'est quelque chose qui très naturellement peut se porter pour ces activités-là.
Il y a d'ailleurs un petit test que j'ai pas mal pratiqué, juste pour expliquer l'impact qu'on peut avoir entre avoir juste des chaussures plates et des chaussures qui ne le sont pas, donc généralement avec un talon surélevé, et que tout le monde du coup peut essayer à la maison. C'est, puisqu'on a pour la plupart maintenant des téléphones portables, on peut se filmer assez facilement. Donc se filmer avec en étant à plat, donc tout simplement debout, tout droit, à plat, se filmer de côté, donc et le corps entier, et ensuite sans bouger l'avant du pied, donc il reste où il est, on glisse une petite brique par exemple ou même un livre en dessous du talon, et on peut répéter ça avec plusieurs bouquins. On peut prendre le petit Robert si on veut. Et ensuite, on compare du coup les deux postures. Donc, toujours en essayant de se tenir droit. Donc, le dictionnaire et le livre vont simuler en fait le talon. Et lorsqu'on regarde les deux postures, en général, ce qu'on va voir, c'est que le bassin va s'avancer. Donc, en fait, il va se désaxer par rapport au dos et aux épaules et au talon. Et c'est pour ça en partie qu'on souffre beaucoup en fait dans le dos, et les femmes s'en plaindront souvent d'avoir des douleurs dans le bas du dos. C'est très souvent lié justement au port de chaussures à talons. Et c'est plus le talon sera élevé, plus la douleur sera amplifiée, et c'est ce décalage du talon qu'on observe, qui est quelque chose d'assez facile. Du coup, on peut faire n'importe qui peut faire ça chez soi pour comprendre en fait ce décalage.
Ouais, c'est complètement ça. Et donc, la question, c'est quelle est la logique. Ce qui est intéressant aussi, il y a une femme exceptionnelle qui s'appelle France Guilhem, qui est exploratrice, navigatrice, qui, elle, je ne sais plus quel âge elle a exactement, mais elle a plus de 70 ans. Elle porte des Five Fingers. Elle m'avait dit un jour, je les porte justement, j'aime bien les talons, et si je vais à un endroit, une soirée, quelque chose, et je veux être belle, je mets des talons, mais je peux mettre des talons parce que mes pieds sont forts, et mes pieds sont forts parce que je les fais travailler, et une partie de ce travail-là, c'est de porter des chaussures qui sont fines, flexibles, qui laissent la place aux orteils, qui sont plates, et justement, qui en permanence, continuellement, font travailler le pied.
Puisqu'on rentre, donc, ouais. Désolé de te couper, mais puisqu'on rentre un petit peu dans le facteur santé, fait d'avoir le pied fort, etc., j'en profite, et puis en plus, on est en train de reparler de Five Fingers, donc c'est l'opportunité parfaite. Je sais que Vibram avait pas mal, avait eu en tout cas un procès aux États-Unis. quand ils étaient encore un peu jeunes, parce que c'était un moment déjà, mais parce qu'ils avaient avancé, ils sont, enfin, je n'ai plus le discours exact, mais ils avaient plus ou moins avancé que leurs chaussures étaient un peu un produit miracle. En tout cas, ils avaient été peut-être un petit peu trop sensationnels, je pense, sur leur terminologie. Et du coup, je pense qu'on leur avait reproché. Je ne sais plus exactement quelle était l'issue. Non, enfin, je crois qu'ils ont eu à payer quelque chose.
Oui. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont... Il n'y a pas eu de procès, en fait. Il y a eu une plainte en class action.
Ah oui, c'est ça.
Alors, les class action, c'est un procès de groupe. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que dans leur matériel marketing, ils attribuaient aux chaussures les bienfaits du pied nu. Donc, et qui sont reconnus et indiscutables par rapport à ce que tu viens de dire sur la posture, par rapport à la force, le développement de la force intrinsèque du pied et la flexibilité. Donc, toutes ces choses-là sont vraies. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, quand vous portez nos chaussures, vous allez les renforcer, vous allez améliorer votre posture, vous allez éviter d'avoir mal au dos, vous allez ta-ta-ta-ta-ta-ta. Donc, les avocats en class action, c'est des gens qui regardent en permanence ce genre de déclaration. Et donc, ils ont trouvé, entre guillemets, une victime à qui ils ont posé la question, vous avez ces chaussures-là, est-ce que vous avez senti que vous avez moins mal au dos, que vous avez une meilleure posture, que vos pieds vont mieux, etc., etc. La dame a dit, non, je n'ai pas senti ça du tout. Ah bon? Donc, ils ont posé la question, quelles sont les études scientifiquement validées que vous avez qui indiquent que vos chaussures ont réellement ces bienfaits-là? Et il n'y en avait pas.
Ouais.
Donc, la brèche est ouverte. Et donc, ils ont demandé 150 milliards de trilliards, comme ça se fait aux États-Unis. Et donc, finalement, ça s'est soldé par... Il n'y a pas eu de procès. Donc, ils pouvaient aller jusqu'à faire en sorte à ce que le juge se prononce sur le oui ou non d'un procès. Mais si le juge, à ce moment-là, dit « oui, on peut faire un procès », ensuite, on passe une étape. Donc, avant que ça n'arrive à cette étape-là, ils ont fait une négociation avec les avocats, ce qui se fait couramment aux États-Unis. Ils ont trouvé un accord. Je ne sais plus les chiffres exacts, mais je crois que c'était un montant de quelque chose comme 2 milliards et demi. 2 millions, pas milliards. 2
oui,
millions.
Milliards,
et
ils auraient eu du mal, ils étaient encore un peu.
Non. 2 millions et demi. Je crois que les avocats, ils ont eu un peu plus d'un million. Ensuite, les plaignants, donc ils ont fait un class action. Donc, un class action, c'est ils vont chercher, ils vont faire un communiqué. Combien de personnes, comme madame, n'ont pas senti d'amélioration de leur posture, etc., etc. Tous ces gens-là, ils ont dit oui, moi. Ils ont eu une indemnité qui était assez dérisoire. Ils ont eu la possibilité de retourner les chaussures et un remboursement intégral. Et puis, les restants, il y avait un montant qui restait, qui a été versé à l'association de, je sais pas, pour le cœur, quelque chose. Ouais. Un truc de santé. Et ça, c'était la fin de l'histoire. Mais l'erreur qu'ils ont fait, et Reebok a fait la même erreur avec des chaussures qui étaient toutes incurvées, une semelle incurvée, sur lesquelles ils disaient que ça améliorait, ça tonifiait les fesses. Et ouais. Eux, ils ont pris 35 millions, je crois. Parce que Reebok était largement plus grand que Vibram. Donc c'est un truc qui couramment si tu fais pas attention comment tu expliques les choses, tu peux te prendre un procès comme ça aux États-Unis.
J'ai trouvé le chiffre d'ailleurs, ils ont eu à verser 3,75 millions.
Ok.
Je veux pas le détail de qui a eu quoi. Dollars.
Je crois que la moitié c'était pour les avocats. Donc on sait pourquoi les avocats font ce genre de choses. Ils sont des spécialistes là-dedans. Qui font que des class action. Bref. Mais, en fait, et c'est là où, et avec Born to Run, tu as lu le livre, là, il y a plusieurs personnes qui parlent de ça, justement des bienfaits du pied nu aussi. Vivo Barefoot est très, très actif là-dessus. Et là, ils ont récemment lancé un Shoespiracy, donc pas conspiration, mais shoespiracy. Comment, quelque part, l'industrie de la chaussure, la dernière chose à laquelle pense l'industrie de la chaussure, c'est le bienfait de vos pieds. Ils pensent à la couleur, la forme, la mode, toutes ces choses-là, mais pas, en tout cas, ce que nous considérons comme l'essentiel, c'est qu'est-ce qu'il y a bien là au pied dans tout ça. Et pour les enfants, il y a encore, ça c'est encore tout un autre débat. Là aussi, on dit qu'il faut des chaussures qui montent pour bien tenir le pied. Sauf que, pourquoi est-ce qu'on a bien besoin de tenir le pied? Ça fait 2 millions d'années qu'on est sur la Terre. Et ce n'est pas le fait que de marcher sur du bitume qui est dur qui fait qu'on a besoin de protéger. Le corps fonctionne d'une certaine façon, il faut le laisser fonctionner naturellement, normalement.
Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ta découverte de ça, donc ta propre expérience dessus? Parce que tu vendais les produits, bon, c'était comme ça que tu gagnais ta croûte, hein, ce qui est logique, et effectivement, tu as voulu être ton propre ambassadeur, mais quelque part, ça a dû être un petit peu, je pense, un parcours de découverte pour toi, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez différent de ce que tu as dû pratiquer avant.
Ben, au fait, je pense que le cheminement que j'ai eu moi est le cheminement qu'au final, je découvre, je vois chez pratiquement tout le monde qui découvre ça. Et peut-être c'était pour toi la même chose. C'est quelque part une réaction qu'on a très souvent, c'est mais pourquoi je n'entends que vous qui parlez de ça? Ouais. Ben oui, parce que c'est tellement logique que c'est étonnant. Mais ce qui est fascinant aussi, et après, quand tu vas chercher les choses, tu vas aller voir un peu les réponses un peu partout. J'étais à Rome en vacances il y a 2 ans. Et quand tu vas voir les statues à Rome ou à Venise ou à Florence aussi, donc les statues, quand tu vois les chaussures, ben, qui finalement, tu vois partout, c'est des sandales qui sont plates, qui sont ouvertes. Quand tu vois aussi la forme des pieds, et ça, tu le vois aussi dans n'importe quel pays où tu voyages, où les gens sont plutôt pieds nus ou avec des chaussures ou des tongs ou ce genre de choses, tu vois la force du pied, la mobilité du pied, c'est juste fascinant. Donc, en termes de ma pratique à moi, j'ai toujours été sportif. J'ai beaucoup pratiqué les arts martiaux. Ça a commencé quand j'étais étudiant aux Pays-Bas avec la boxe thaï, aussi par quelque part le fait d'être né dans ce pays-là. J'ai fait du karaté, du judo. Et là, ces activités-là se pratiquent pieds nus. Et puis ensuite, par contre, avec la course à pied, je courais déjà avec des chaussures comme tout le monde. Et la première fois, un peu comme tout le monde, quand j'ai fait ma première sortie avec les Five Fingers, donc en minimaliste, je savais qu'il ne fallait pas en faire trop, mais j'ai fait 40-50 minutes. Après 4 jours, les mollets, impossible de monter les escaliers. Donc le truc à ne pas faire, mais c'est là où j'ai fait un grand pas en arrière. Je dis, mais il faut que je comprenne comment ça marche. Et donc là, c'est une découverte. Est-ce que je. Quand je cours maintenant, le fait d'être beaucoup plus en phase, je trouve, avec l'environnement, le fait aussi, je suis plutôt hyperlaxe, j'ai toujours eu des problèmes d'entorse depuis, donc, les Five Fingers. Pour 2 raisons, j'ai pas ce problème-là. D'une part, parce que le pied, l'ensemble pied-cheville, tout ça, c'est renforcé. D'autre part, parce que, en fait, 3 raisons. Deuxièmement, quand tu es pieds nus sur un sol plat, tu ne peux pas faire d'entorse. C'est pas possible. Tu te fais une entorse quand tu vas surélever le talon un petit peu, ou même plus. Et donc, rester à plat, déjà, tu évites beaucoup les entorses aussi. Troisième élément, c'est que comme tu es, encore une fois, très en phase dans tes mouvements, dès que ça part, je récupère. Et donc, je n'ai plus de situation où vraiment ben, ça fait une entorse non maîtrisée parce que l'ensemble est renforcé je suis plus en phase dans les mouvements que je fais. Et donc, ce sont ces éléments-là qui me font dire, mais je peux pas faire un retour en arrière. Donc, ta question est intéressante parce que je n'y ai pas pensé. j'ai fait une croissance là-dedans et je n'y pense plus. Mais c'est mon nouveau normal à moi. Mais c'est ça qui fait la découverte dans des gens qui découvrent ça pour la première fois. Ils se disent, mais c'est incroyable la sensation, la liberté de mouvement. Et donc, il y a un vrai étonnement, quoi.
Ça fait un petit peu écho à ce que j'ai pu vivre avec ça. Et moi, je sais qu'en plus, j'ai eu une peur, en fait. Tu vois, c'est... Ah ouais? Parce que j'avais pas mal couru avant. J'étais déjà un coureur assez, on va dire, assez aguerri. Mais parce que je savais que quand je courais beaucoup, je me faisais mal. En fait, j'avais peur avec ces nouvelles chaussures qui ne me protégeaient plus. J'avais toutes les informations. Je comprenais comment ça marchait, mais je n'avais pas réussi à me convaincre moi. Une peur irrationnelle. Et du coup, c'est ce qui m'a retenu. C'est ce qui m'a empêché d'en faire trop au début. Et là où je croise tout le temps des gens qui ont eu à peu près la même histoire que tu décris, d'avoir les mollets en feu et d'être... ou de se faire mal, de se retrouver avec une petite blessure de fatigue parce qu'ils ont voulu trop en faire dès le début, j'y ai échappé parce qu'en fait, j'avais un historique de blessures qui fait que j'avais peur de me faire mal et en ayant peur de me faire mal, du coup, je ne me suis pas fait mal.
Ouais.
Mais par contre, c'est vrai que puisque les sensations sont très différentes et que tu te sens tellement dynamique tout d'un coup, ouais. c'est très, très particulier. Hein, et c'est ouais. Je pense que pour ça, cette approche d'expérimenter en fait juste en les essayant et en allant faire un tour juste faisant quelques pas comme ça, tu te rends compte que finalement tu interagis beaucoup plus avec ton environnement et tu as beaucoup plus de contrôle en fait sur ce que tu fais.
Oui.
Et c'est vrai que tu te retrouves généralement avec un grand sourire et tu as envie de cavaler dans tous les sens, tu as envie de grimper sur tous les trucs, tu as envie de sauter par-dessus les choses. En gros, tu as à nouveau 8 ans et c'est génial. Et donc, c'est sûr qu'on s'emporte un petit peu vite parce que quand on a 8 ans, on n'a pas la notion du plan d'entraînement. On a très vite dit, on se dit, si je m'amuse, tant que je m'amuse, je continue.
Ouais.
Et donc, c'est vrai que la blessure peut être vite arrivée.
Ouais. Alors, ce qui, peut-être pour les personnes qui écoutent, il y a une chose que je conseille assez souvent, c'est de juste enlever les chaussures. Et un endroit. Et si on veut courir un peu pieds nus sur un stade, par exemple, faire quelques tours de stade, bon, alors ça va picoter d'abord sous le pied un peu, mais ça disparaît assez vite. Mais ça donne déjà une bonne idée parce que naturellement, on va poser le pied sur l'avant-pied. Et donc, dans le genre de question qui revient souvent, c'est ok, je comprends. Donc là, quand on trottine comme ça, mais moi, je suis quand même un coureur sérieux. Comment je fais? Il faut bien sûr y aller progressivement. Et ensuite, c'est la question, OK, en montée, t'es forcément sur l'avant-pied, mais en descente, t'es obligé de mettre le talon en premier. Et j'ai dit, tout à fait. Oui. C'est comme quand tu descends très, très vite des escaliers. Là, t'es aussi sur le talon, non? Non. Ah ben voilà. Donc, quand tu descends les escaliers très vite, t'es sur l'avant-pied, donc tu peux le faire, mais quand tu cours en descente sur un chemin, tu peux le faire aussi, tu peux atterrir sur l'avant-pied aussi. Ce que ça demande, c'est de réduire la distance de pas et d'augmenter la cadence. Et y a plusieurs clés donc, dans cette foulée avant-pied. Une première, c'est de réduire la distance de pas et d'augmenter la cadence. Et l'augmentation de cadence, ça, c'est un élément très, très important. Et c'est marrant, là, nous sommes actuellement dans le confinement. Et donc, il y a pas mal de gens qui courent. On les voit maintenant plus qu'à d'autres moments. Et tu vois qui ont une cadence beaucoup trop lente. Donc, ça fait qu'on va taper plus avec le pied par terre. Et ce qu'il faut essayer de faire, c'est de trouver une foulée plus aérienne, plus rapide, qui semble contre nature, qui semble aussi plus fatigante, qui peut être plus fatigante au début, mais une fois qu'on a commencé à rentrer dedans, les moins. Donc, ça fait partie de ces éléments techniques. Mais c'est surtout, comme tu disais, c'est la découverte qui est l'élément le plus étonnant. Mais c'est bien de découvrir justement cette partie-là du corps qui, encore une fois, est à la base de ce qu'on fait et qu'il faudrait libérer en quelque sorte.
Il y a une démarche que je propose souvent aux gens qui sont curieux pour ce genre de pratique. C'est tout simplement déjà d'être plus souvent pieds nus à la maison.
Oui.
C'est une première chose. Dès qu'ils sortent, qu'ils vont au parc, qu'ils vont sur une pelouse, qu'ils vont se balader quelque part, qu'ils ne vont pas forcément aller très loin, qu'ils n'hésitent pas à enlever leurs chaussures. Donc, c'est aussi l'occasion d'interagir un petit peu avec leur environnement. Et pour ceux qui ont décidé qu'ils avaient envie de s'intéresser à ça un peu plus sérieusement et qui ont envie de renforcer leurs pieds, renforcer leur équilibre, je leur recommande en général du coup de se tourner vers justement les nombreuses marques qui font ce genre de chaussures, donc très souples et très assez fines. On a un bon contact avec le sol, et du coup c'est pratique pour aller un peu partout. Mais surtout, même s'ils sont coureurs, de ne pas forcément commencer à courir avec. Et avant tout, juste de les porter au quotidien. Et donc, ça va être pour aller faire les courses, le week-end, parce que ça ressemble, pour la plupart des modèles, hein, même s'il y en a qui sont un peu plus habillés, ressemblent surtout à des baskets. Donc, c'est parfait pour ces moments un peu de détente. Et ça leur donne l'opportunité, en fait, de renforcer progressivement le corps. Et si un jour, ils considèrent que c'est quelque chose pour eux et qu'ils ont envie de courir avec, dans ces cas-là, c'est possible.
Je pensais juste pour revenir à ta question d'avant par rapport à mon cheminement. Dans le travail que je faisais au début, j'ai rencontré beaucoup d'athlètes d'haut niveau et également des entraîneurs.
Ouais.
Et ce qui est très intéressant avec ces gens-là, c'est que l'athlète d'haut niveau, il ne peut pas s'encombrer de choses qui ne sont pas utiles. Et l'entraîneur de l'athlète d'haut niveau, il faut qu'il propose des choses là aussi qui sont efficaces. Et il y a eu, à cette époque-là aussi, plusieurs combattants en UFC, donc en MMA, qui, je rappelle, c'est un sport qui se pratique dans un ring qui est fermé, c'est dans une cage, au fait, où il y a deux mecs qui vont se bastonner, ou filles, qui vont se bastonner. Et donc, si tu t'entraînes pour faire ça, c'est sûr que tu ne vas pas t'encombrer de choses qui ne sont pas utiles. Ça se pratique pieds nus, encore une fois, pour des raisons qui sont évidentes. Et avoir interagi avec des athlètes de haut niveau dans ce domaine-là, qui portaient ces chaussures-là pour leur entraînement, voilà, c'est une validation qui permet aussi, qui motive en quelque sorte aussi de continuer, parce que tu peux en parler autant que tu veux, tu peux trouver ça agréable toi-même, mais quand des gens comme ça qui les portent pour leur travail, parce que finalement ce sont des sportifs professionnels dans ces domaines-là, c'est super intéressant. Et d'ailleurs, il y a la question qui revenait très souvent à ce moment-là, c'est que si c'est aussi génial, comment ça se fait qu'on ne les voit pas, ces athlètes de haut niveau, les porter ?
C'est ce que j'allais te demander.
Ouais, voilà. Mais ça, c'est parce que Nike, Adidas, Puma et autres ont des stratégies de sponsoring que Vibram n'a jamais eues, pour ce qui est Vibram, et que les autres fabricants avec lesquels on travaille n'ont pas non plus. Et quand tu es sponsorisé par une de ces grandes marques, tu n'as le droit de porter que ces produits de cette grande marque. Mais il y a plusieurs athlètes, que je ne vais pas nommer évidemment pour ne pas les mettre en porte-faux, mais qui les portent en entraînement, mais loin des caméras, parce que c'est un outil d'entraînement pour eux, comme d'autres outils, et pour eux, c'est important d'utiliser ça dans leur entraînement et leur pratique, quoi.
C'est vrai que c'est quelque chose que je pense qu'on comprend souvent assez mal et qui est peut-être méconnu, c'est comment fonctionne le sponsoring dans le sport. C'est-à-dire que souvent on se dit, je pense qu'inconsciemment on se dit, si tel athlète, tel champion de je ne sais quoi, restons sur la course à pied, puisque ce dont on parlait depuis le début, mais si tel coureur a choisi, si tel coureur porte cette chaussure, c'est qu'il la porte parce que c'est la meilleure. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche, en fait. C'est plutôt la marque, en fait, qui va approcher l'athlète et qui va lui dire, bah écoute, moi je veux bien financer ton entraînement, mais tu portes mes produits. Et à moins qu'il ait d'autres marques qui se bousculent pour le sponsoriser, cet athlète, en fait, n'a pas vraiment le choix. Il va peut-être pouvoir choisir dans la gamme, enfin, ça, encore, ça dépend, parce que potentiellement, si c'est un de leurs athlètes les plus visibles, la marque va dire, attends, tu portes le produit qu'on essaie de pousser en ce moment, et c'est tout, en fait. Tu n'as pas ton mot à dire, puisque c'est moi qui paye ton loyer. Et lorsqu'on parle des plus grands coureurs du monde, les écuries, typiquement, parce que j'appelle ça un peu une écurie, enfin, la façon dont les grandes marques de course à pied développent leur activité principalement en Afrique, les champions en fait des petites épreuves locales se voient assignés en fait à une marque, et c'est grâce à cette marque en fait qu'ils vont pouvoir participer à des compétitions, et parfois c'est même leur première paire de chaussures.
Bien sûr. Alors, je crois qu'il y a, plusieurs éléments à ça. C'est que dans le sponsoring aussi, tu vois un gamin de 16 ans qui est très prometteur, mais tu ne sais pas si ça sera le nouveau Nadal ou le nouveau Neymar. Mmh. Donc, il faut quand même beaucoup de gamins de 16 ans déjà attrapés au début pour pouvoir ensuite voir comment ils se développent. Mais il y a, évidemment, comme toujours, il y a 98% qui n'ira nulle part, mais ce sont les 2% qui arrivent au top du top qui vont financer la possibilité de continuer à avoir 98% qui n'iront nulle part. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que si je joue au tennis et j'ai la même raquette que Nadal, ben, je vais jouer comme Nadal. Dans ta tête, peut-être, mais pas sur le court. Mais bon, il y a cette émulation, voilà. Et pour le foot, c'est la même chose. Si j'ai les chaussures de Neymar, si j'ai, tu choisis ton héros.
J'ai un bon exemple de ça en dehors du sport. Un jour, on m'a mis dans les mains la même guitare que celle qu'utilise Eric Clapton. Et donc, j'ai joué un petit peu avec. Et tout ce que je peux dire, c'est que ça s'est vachement mieux placé pour Eric Clapton.
Ah oui, c'est sûr. Oui, c'est exactement ça. Et le golf, c'est terrible aussi, parce que la balle, tu vas aller beaucoup plus loin, sauf que si c'est toujours pas dans la bonne direction, tu vas être beaucoup plus loin dans la cambrousse que... Bon, bref, voilà. Donc ça, c'est effectivement le sponsoring. C'est un autre métier, ou c'est un choix marketing qu'il faut pouvoir maintenir dans la durée, et c'est une stratégie à voir ou à ne pas voir.
Sur le sujet justement c'est toujours des débats qui reviennent, et surtout lorsqu'on parle de course à pied, on va quand même beaucoup parler dans le monde minimaliste des quelques athlètes qui ont eu des performances très connues pieds nus en tout cas, mais c'est vrai qu'il y en a pas tant que ça, principalement parce que pour pouvoir vivre, en fait, être sportif professionnel, il faut être sponsorisé. Et aujourd'hui, tu as très très peu en fait de fabricants de chaussures, ou même aucun fabricant de chaussures minimalistes qui peut vraiment subvenir à la totalité des besoins d'un athlète. Je veux dire, ils n'ont pas ce genre de budget en fait en marketing.
Non.
Donc, il n'y a pas vraiment d'histoire à raconter.
Ouais. Ce qui est intéressant, c'est de voir. Les bons coureurs, finalement, quand ils portent les chaussures d'une marque, ce sont lesquelles? Et si dans la course à pied, tu prends Kylian Jornet, quand il courait encore, mais il a officiellement arrêté, il courait pour Salomon avec les chaussures qui étaient les plus minimalistes chez Salomon, les S-Lab.
C'était pas un poisson d'avril, hein, son arrêt, justement.
Ah, tu crois? Ah, bon.
C'était le 1er avril. Hein. En tout cas.
Ah, d'accord.
Oui, je pense que tu es tombé dans le panneau.
Ouais, mais bon, cela dit, il a à peu près tout fait ce qu'il pouvait faire. Et
donc, on le voit moins sur certains trucs déjà.
Ouais. Donc.
Mais ton propos reste valide.
Ouais. Ouais. Donc. Après, je pense aussi qu'il y a une autre chose qui est importante à rajouter, c'est que chaque marque trouve son élément de différenciation. Chez Nike, c'était Air. Chez Adidas, c'est Boost. Chez Mizuno, c'est la Wave Revolution. Chez Brooks, ils ont des rails de guidage. Voilà, on va rajouter tout un tas de technologies. Et quand on a des débats technologiques, on a une différenciation. Avec les chaussures minimalistes ou barefoot ou comme pieds nus, comme tu veux les appeler, il n'y a rien à raconter, puisque on va dire que la technologie est en toi, c'est toi qui cours, c'est pas la chaussure qui court. C'est ton pied, c'est ton corps, c'est l'ensemble de ton corps. Donc, si tout le monde disait, ben, au fait, dans la chaussure, il n'y a rien, c'est toi, ben, on n'a pas de différenciation. Là, on a uniquement la couleur, un joli logo, ou effectivement un athlète qui les porte. Mais la différenciation, et là, Nike a encore démontré avec leur nouveau super, whatever, knit, fly, vapor, machin, qui, voilà, avec lequel Kipchoge a réussi, pas officiellement, à arriver en dessous de 2 heures sur le marathon. C'est un athlète extraordinaire. Là, encore une fois, si tu portes ces chaussures-là, tu ne vas pas forcément courir beaucoup plus vite. En tout cas, je ne sais pas, hein, mais ce n'est pas la chaussure qui court, c'est toi qui cours. Et la course à pied est une activité multifactorielle qu'il ne faut pas oublier. Donc, ça peut dépendre de la qualité de ton sommeil, de la nutrition, de tout un tas d'éléments. Mais les marques ont besoin d'avoir des différenciations technologiques pour pouvoir raconter chacun à sa façon son histoire et se différencier. C'est aussi une raison que si tout le monde se mettait à mettre à rien dans la chaussure, ben, il n'y avait plus rien à raconter, quoi.
Oui, on serait obligé de parler de la qualité de nos lacets, de la légèreté, des œillets de la chaussure. Ça pourrait devenir vite ennuyeux. Il y a moins de choses à raconter.
Exactement, exactement.
Mais,
et à développer.
Oui, en plus. Mais après, je pense qu'on voit quand même dans la mouvance de ces chaussures minimalistes, et je sais que toi, tu travailles avec eux aujourd'hui, tu as des entreprises qui se sont développées un peu là-dessus, tout en restant plus proche de la chaussure conventionnelle, comme Ultra Running, qui font des chaussures plates. Elles ne sont pas à proprement parler minimalistes, parce que tu as quand même une semelle d'épaisseur variée, mais tu restes quand même sur une chaussure plate, tu as la place à l'avant, justement, pour bien faire fonctionner les orteils. Ça a la forme d'un pied, c'est déjà pas mal. Ouais. Enfin, il y a une sorte d'entre-deux quelque part qui s'est créé, et c'est pas les seuls d'ailleurs sur ce créneau-là.
Ouais. Alors tout le danger après, c'est que pour nous il y a 5 éléments qui font qu'une chaussure ressemble le plus possible au pied dans son fonctionnement et dans sa forme. C'est la largeur à l'avant, donc la toe box comme on dit en anglais, la boîte à orteils, la place pour les orteils pour bien se déployer. Ça, c'est un premier élément. Il faut que la semelle soit plate, que le talon ne soit pas surélevé, comme tu disais tout à l'heure avec l'exemple des livres. Que cette semelle-là, elle soit fine pour que tu puisses sentir le sol à travers, parce qu'on a des centaines de milliers de capteurs nerveux sous le pied. Et si, à titre d'exemple sur ce point-là, je disais, si tu mets 4-5 pièces de monnaie dans ta poche et je te demande de sortir la pièce d'un euro, tu mets ta main dans ta poche, tu vas sentir, tu vas trouver la pièce d'un euro, tu vas la sortir. Si ensuite, tu mets une moufle et tu vas devoir faire la même chose, est-ce que tu vas y arriver? C'est beaucoup plus compliqué. Donc, la finesse de sensation qu'on a dans les doigts, on l'a aussi dans les pieds. Et on en a besoin justement parce que notre cerveau perçoit la force de réaction, la force avec laquelle on tape au sol. Ça nous aide dans l'équilibre, l'équilibre qui vient de 3 endroits, donc les yeux qui nous donnent l'horizon, l'oreille interne, et puis nos pieds. Si tu enlèves un de ces 3-là, tu es déjà un peu moins stable dans l'équilibre. Donc, je reviens, la place pour les orteils, une semelle qui est plate, une semelle qui est fine, avec laquelle on peut sentir, ça s'appelle l'extéroceptivité, on sent les éléments de l'extérieur, et une semelle qui est aussi flexible, parce que notre pied est flexible. D'accord ? Et dernier élément, c'est la tige et aussi la partie talon à l'arrière qui sont là aussi flexibles, qui permettent aux pieds de bouger. Très souvent, on va trouver des chaussures avec la partie talon qui est rigide, qui va bloquer le talon dans ses mouvements. Donc, si on a une chaussure comme ça qui répond à ces 5 critères-là, on est réellement le plus proche possible du pied nu. C'est ça l'ultime but. Donc, si tu prends une chaussure qui est plate, zero drop, comme on dit, qui a de la largeur pour les orteils, mais qui a une semelle énorme qui empêche la flexibilité et la sensation du sol, ben, tu es déjà à côté de la plaque. Donc, et c'est ça qu'on va retrouver sur d'autres chaussures de la même façon, où ben, il y a peut-être 3 critères, où ça peut être aussi flexible, mais à la partie à l'avant, elle est remontée pour que la chaussure puisse bien rouler, mais finalement, quand ça va rouler, c'est encore une fois une pose de talon d'abord pour ensuite partir vers l'avant, mais les orteils ne peuvent pas réellement se déployer comme il faut. Donc, on n'est pas sur les 5 critères, quoi. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est en quelque sorte essayer de dire, bon, c'est plat et il y a de la place pour les orteils, donc c'est minimaliste, sauf que la semelle, elle fait 3 cm, donc ça ne l'est plus. Mais comme ça, vous avez de l'amorti et ça va quand même vous protéger. Bah, ok. D'accord. On n'y est pas.
Où est-ce que quelqu'un qui voudrait s'intéresser à ça aujourd'hui, où est-ce que tu les enverrais dans un premier temps si, par exemple, ils ne peuvent pas juste venir essayer une paire de chaussures?
Je pense, la première, c'est toi qui le disais tout à l'heure, déjà, la première chose à faire, c'est juste se mettre pieds nus. Et si on veut le faire pour la course à pied, c'est d'aller trouver une piste d'athlée quelque part, ou un endroit, hein, où ça peut être sur la route aussi, s'il y a un endroit tranquille, ou sur l'herbe, pourquoi pas, sur un terrain de foot. C'est juste aller se mettre à courir complètement pieds nus. Ça, c'est une première chose. Et de vraiment essayer de sentir qu'est-ce que je ressens, est-ce que c'est agréable, est-ce que c'est comme ça que je veux continuer. Par la suite, le plus important, au fait, et ça on voit beaucoup, c'est les coureurs qui viennent nous voir et qui disent, moi je veux des chaussures comme ça parce que je veux changer ma foulée. La question, elle est quelque part à l'envers, c'est que si tu veux changer la foulée, il faut apprendre à changer la foulée. Dans la course à pied, il y a une chose qui est très mal comprise, c'est que la course à pied, tout le monde dit c'est naturel, on est né, voilà, on est né comme ça, on court depuis toujours, on sait, tout le monde sait courir, quoi.
Born to run.
Born to run, oui, sauf voilà. Que c'est un geste technique qu'il convient d'apprendre. Et dans cet apprentissage, qui n'est pas compliqué, mais qui est simple, mais pas facile. Il faut juste prendre les choses dans le bon ordre, et dans le bon ordre, c'est réduire la distance de pas, augmenter la cadence, faire une pause sur l'avant-pied extérieur, donc 5e-4e métatarse. On pose le talon par la suite et une propulsion qui passe par le gros orteil. Le gros orteil, que je rappelle, a 4 fois la densité osseuse et 4 fois la dimension des autres orteils, parce que c'est notre point d'ancrage et c'est notre point de sortie du mouvement de marche ou de course. Et ce gros orteil-là a cette force pour justement nous accompagner là-dedans. Donc, c'est de respecter le fonctionnement du corps dans cet apprentissage-là. C'est pas juste une chaussure magique. Maintenant que j'ai la chaussure magique, je vais courir comme un dieu. Tout comme on disait tout à l'heure, c'est pas la raquette de Nadal qui va te faire jouer comme Nadal, ni la guitare de Clapton. Voilà, ce sont que des éléments, mais finalement, c'est à toi de faire un travail. Et quand je rencontre de la résistance, très souvent, c'est sur ce point-là où quelqu'un va me dire, mais attends, wow, moi, je bosse toute la journée et quand je vais aller courir le soir, je ne veux pas me prendre la tête à comment je pose le pied, nanani, nanana. Je dis, wow, cool, c'est comme tu veux. Et d'ailleurs, une autre source intéressante d'informations sur la course à pied, c'est un kinésithérapeute canadien qui s'appelle Blaise Dubois,
oui,
qui a fondé la clinique du coureur et qui lui dit, et je suis tout à fait d'accord avec lui sur ce point-là, c'est que si tu as des chaussures conventionnelles, que tu cours, que tu n'es pas blessé et tu es heureux, continue comme ça. C'est le but surtout, et moi personnellement, et je pense pour toi aussi, moi j'ai 2 objectifs quand je cours, c'est m'amuser et ne pas me faire mal.
Oui.
2 objectifs, super simple. Et je vois tellement de gens qui grimacent et je me dis, putain, toi, tu n'es pas en train de t'amuser et je crois que tu te fais très, très mal. Pourquoi tu cours ? C'est ça, au fond. Donc, c'est de trouver ce plaisir dans ce mouvement, quelque part ancestral. C'est ça la clé. Et là, tu peux y aller à la vitesse à laquelle tu veux, mais il faut respecter la transition. Il faut respecter ton corps, surtout être, et ça, on a beaucoup oublié, c'est en phase avec son corps, se sentir, OK, là, d'ailleurs, si je peux juste faire un aparté, il y a
Vas-y,
un très bon test que tu peux faire. C'est au lever du lit, le matin, quand tu te lèves, si tu as fait une sortie hier qui est un peu hard, si tes pieds font mal, bah, tu ne vas pas sortir aujourd'hui. Peut-être tu vas faire autre chose si tu veux faire du sport, mais pas forcément cet acharnement d'aller encore une fois courir, parce que le corps se construit au repos et pas au travail. C'est quand tu as été un peu trop loin, tu as cassé un peu les choses, ton corps a se réparé. Et c'est ça la capacité antifragile de notre corps, c'est de se réparer et de revenir plus fort. Mais il faut laisser le temps à cette récupération pour se refaire. Et à ce moment-là, on peut progresser, quoi.
Et puis oui, c'est, de toute façon, c'est cette phase de repos qui est déterminante pour la progression. Et
Ah ben,
effectivement, si
oui.
on la supprime, on est constamment en fait de. C'est un petit peu l'idée d'essayer à chaque fois de repartir sur quelque chose qui est à moitié construit.
Oui.
Donc petit à petit, bah, il manque des trucs, il y a des choses qui ne collent pas bien. On va dire que le plâtre n'a pas bien séché de la fois d'avant.
Ouais, donc en fait, c'est moitié construit ou moitié détruit.
C'est ça, à force en tout cas.
Ouais.
Oui, c'est vrai que. Mais d'ailleurs, en plus, toi, tu as pas mal de ressources, je crois, sur le site de Compienu, des livres et des
Oui.
tutos en plus qui
Oui.
parlent de ça pour les gens qui ont envie de s'intéresser un petit peu à ce
Oui.
sujet-là.
Oui. Alors, il y a quelques livres qui sont vraiment très, très bien. Donc, nous travaillons depuis des années avec Fred Brigot, qui est un ostéopathe spécialiste en biomécanique, qui a écrit pour nous, et on est coéditeur de ce livre, un petit guide de la foulée, qui explique avec ça quelques éducatifs et des explications qui sont très, très claires. Donc ça, c'est un petit livre qui coûte 8 euros. D'ailleurs, quand on vient en magasin chez nous acheter des chaussures pour courir, on le donne gratuitement parce que c'est une ressource quelque part essentielle dans l'apprentissage de la course à pied. Ce n'est pas les chaussures qui vont par magie amener ça. C'est un travail qu'il faut faire. Il a écrit un autre livre sur la course à pied, mais qui est plutôt destiné à c'est un petit peu techniquement un petit peu plus avancé. Donc c'est très bien pour les kinés, les ostéos, les entraîneurs, ce genre de personnes, parce qu'on parle beaucoup de biomécanique, mais de façon technique. Il y a un très bon livre, gros livre de Blaise Dubois, justement, à la clinique du coureur, qui est très intéressant aussi parce qu'il y a eu des contributions, une cinquantaine de contributions d'athlètes, de praticiens de la santé. Et puis après, il y a encore d'autres livres sur le sujet.
Ouais,
Oui,
bah,
oui.
c'est... puis y a assez peu d'endroits en fait où on peut facilement retrouver ces spécialités en français parce que
Oui.
il faut savoir qu'une partie des livres, enfin pas tous, hein, mais une partie des livres que tu vends, c'est des traductions. De toute façon, c'était la raison même de ce podcast, hein, c'est que c'est difficile parfois de trouver ce genre de contenu en
Ouais.
français alors que pourtant en anglais, on a beaucoup d'options. Donc c'est sympa du coup d'avoir un petit point où on peut trouver quand même pas mal de choses en français. Merci pour ton intervention, Peter.
Avec plaisir.
C'est bien de pouvoir avoir ton point de vue sur ça. Bon, après, bien sûr, tu es un petit peu intéressé puisque effectivement, tu as une boutique qui vend ce genre de choses. Mais la raison pour laquelle je pensais que c'était quand même pertinent de t'avoir, c'est que tu es passionné en fait par ton produit. Et parce que nous, on en a déjà parlé avant. Et je sais bien qu'en fait, tu n'essaies pas de pousser ta marchandise. En fait, c'est ton métier, c'est de vendre des produits, mais c'est parce que tu y crois. Et ça se sent, en fait, quand on discute avec toi. Tu es un vrai passionné de ton sujet. Je pense que c'est bien aussi d'avoir ta perspective sur cette industrie. Du coup, j'invite toutes les personnes qui écoutent, s'ils veulent soutenir une entreprise française, lorsqu'ils veulent s'acheter des chaussures minimalistes, moi je les encourage à aller regarder sur le site de comfini.com, que je mettrai en lien du coup, dans la fiche. Donc je te remercie pour toutes les recommandations, toutes les explications. Et j'espère que tu seras parmi nous pour un autre épisode une autre fois, lorsqu'on sera libéré du confinement peut-être.
Oui, ben, merci beaucoup Ben. Je pense qu'effectivement, comme tu le dis, il y a un déficit d'un certain nombre d'informations en langue française. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, mon fils aîné est en étude d'ostéopathie en Angleterre. Et d'une part, parce que bon, ce sujet-là l'intéressait, mais l'Angleterre est important parce que quand tu vas dans le monde médical, c'est quelque part encore pire que juste dans le domaine grand public de la santé. 15-18% des études scientifiques dans le domaine de la santé sortent en langue anglaise. Et ne pas maîtriser cette langue-là, donc ne pas avoir accès à ces études-là, quelque part, c'est... tu te coupes d'une part énorme du développement et c'est dommageable. Donc, le choix que lui, il a fait d'aller faire son Angleterre, et maintenant il est bilingue, c'est juste logique si tu veux avancer. Et c'est là aussi, juste pour revenir sur Blaise Dubois, ce qui est intéressant, il est canadien, donc il est bilingue. Là aussi, et lui, il analyse les études qui sont faites pour en retenir les plus intéressantes, parce que quand tu as une étude, et là d'ailleurs sur le COVID-19, on le voit maintenant, on va chercher très très vite à trouver un vaccin, il faut que les informations s'échangent et qu'on puisse comprendre ce que font les uns et les autres. Et c'est pas sur un échantillon de 10 personnes que tu peux tirer une conclusion qui va ensuite pouvoir s'appliquer à des millions de personnes. Donc ça demande un travail d'étude de façon diligente et coordonnée et scientifiquement validée. Et ça, dans ce que moi j'ai fait dans le barefoot, dans la course à pied, il y a eu des études comme ça. On a pris 5 personnes ci, 5 personnes ça, et on a trouvé que 80% a eu ça comme résultat. Ok, désolé, mais avec 10 personnes, tu ne peux pas tirer quelques conclusions que ce soit.
C'est vrai, il y a eu beaucoup d'études un petit peu bizarres dans ce domaine-là, ouais. Aussi bien des études qui validaient la course à pied minimaliste que des études qui invalidaient.
Tout à fait.
Principalement parce que c'était des sujets qui ça intéressait pas grand monde, il n'y avait pas beaucoup d'argent, personne n'était vraiment prêt à financer ce genre de truc. Ouais. Donc c'est vrai qu'au début, je pense, de la mouvance du minimalisme qui est apparu derrière Born to Run, il y a eu un peu tout et n'importe quoi. Maintenant, il y a quand même des études un petit peu plus sérieuses qui ont eu lieu, et même le American College of Sports Medicine, qui est un peu la référence des études sportives dans le monde, même eux aujourd'hui changent un petit peu leurs recommandations pour être beaucoup plus en phase avec des chaussures plus fonctionnelles. Et il ne faut pas oublier qu'une partie de leur financement, si je me souviens bien, vient de New Balance. Donc, c'est quand même... Enfin, ils sont parti pris. Et pourtant, même eux ont un petit peu changé leur discours. Comme quoi, ça a fait son chemin.
Si je peux peut-être terminer sur une dernière chose. La question, je pense, à se poser... Et ça m'est venu, j'avais rencontré une dame qui vendait des chaussures à dorsiflexion. Ça veut dire que le talon est moins haut que l'avant.
D'accord.
Et elle avait une étude faite par une labo suisse qui disait que c'était quand même mieux pour le corps. Et donc, si c'est un labo suisse, forcément, c'est bien, quoi. Et j'ai dit, mais juste, ce que je ne comprends pas, c'est que si... on est mieux en dorsiflexion qu'à plat. Comment se fait-il que depuis 2 millions d'années, notre corps ne s'est pas mis comme ça? Et de la même façon que s'il faut surélever le talon, comment se fait-il qu'on n'a pas eu depuis toutes ces années 2 cm ou ce que tu veux de graisse ou je ne sais pas, l'os du calcanéum qui s'est allongé pour naturellement nous mettre plus en hauteur? On est à plat, on est né à plat, on est toujours On n'a pas changé.
Ouais.
Je pense que la nature fait bien les choses. Je pense que la grenouille a la forme ou l'escargot est taillé pour son métier. Je ne sais pas quel est le métier de l'escargot, tu vois. Mais de la même façon. Donc la logique, et que ce soit pour la nutrition ou pour les chaussures ou pour d'autres choses, c'est juste poser la question, comment naturellement est-ce qu'on est supposé faire ces choses-là? Et voilà, naturellement, quand on court sur l'avant-pied. Naturellement, quand on... Voilà, donc c'est poser cette question-là et tu fais déjà un grand pas en avant.
Sans mauvais jeu de mots, bien sûr.
Voilà.
Bah, merci beaucoup, Peter, pour ton intervention. Et,
merci, toi, Ben.
Et du coup, je mettrai bien sûr les différentes choses qu'on a discutées en lien dans la description. Merci à Peter d'avoir partagé avec nous. Je reviens rapidement sur le documentaire Shoespiracy qu'on a cité. Il a été produit par la marque de chaussures Vivo Barefoot et est en anglais, mais je trouve qu'il résume très bien ce qu'est le marché de la chaussure aujourd'hui et pourquoi on ne nous propose pas des chaussures qui sont bonnes pour nos corps, alors que les données scientifiques sont pourtant là pour nous guider. Vous aussi, prêtez le serment d'hypocrite en nous retrouvant sur la page Facebook de l'émission, et n'hésitez pas à nous poser des questions de santé dans les commentaires de l'émission sur Apple Podcasts. Et je prends toutes vos bonnes idées contre 5 étoiles. À bientôt.